Coller sur ce qui se passe ici et ailleurs.
The White House confirms the United States is now set to impose a 104% tariff against Chinese goods.
Les enjeux qui te concernent.
Taxe au chat, c'est la bullshit.
On enlève ça?
On en parle plus tard.
Le but gagnant de la veille.
Cross-eyed Ovechkin fires! Score! Alex Ovechkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ça déboule les textos!
Boulevard 102.1. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. En espérant que tu aies passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble ce soir. Juste avant de vous présenter mon invité de ce soir, on va regarder ce qui se passe à la météo. Voilà, minimum de moins 2 pour ce qui est de ce soir et de cette nuit. Demain, jeudi, on parle d'un maximum de 13 degrés avec des probabilités d'averse en après-midi à 40 %. En soirée, on parle d'un ciel dégagé, minimum de moins 1 pour demain. Vendredi, ben là, c'est des nuages avec un maximum de 14. Pour l'instant, vendredi dans la journée, ça devrait bien aller. Mais par contre, vendredi soir, on parle d'une petite pluie avec un minimum de 6 degrés. Pour ce qui est du week-end, pour l'instant, samedi, de la pluie, maximum de 9. Et dimanche, ce sera une alternance de soleil et nuages avec un maximum de 14 degrés. Mon invité de ce soir, ben, c'est Benoît Therrien. On parle de camionnage, puisque Benoît est président de Truck Stop Québec. Donc, on va parler de ce qui touche l'industrie du camionnage. On va parler de divers sujets. Ça va être franchement intéressant. Je vous invite à rester à l'écoute, les amis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Benoît Therrien de Truck Stop Québec, mon invité de ce soir, comment vas-tu?
Ça va très bien, Yann, toi?
Merci beaucoup, ça va très bien. Merci beaucoup de faire partie de l'émission de Marceau le soir. C'est toujours le fun. Je sais que tu es un gars très occupé avec ta belle gang de Truck Stop Québec. Mais comme l'industrie du camionnage, c'est de bons auditeurs de radio, ben on va essayer de rejoindre tout le monde en même temps puis on va essayer de s'amuser au travers de ça, mon ami.
Tu sais que les camionneurs et camionneuses, parce que oui, on a quand même plusieurs femmes dans notre industrie, sont des gens qui sont friands de radio parlée naturellement, musique aussi, là, mais c'est que ton émission permet, je sais, j'ai des rebounds à trois fois, mais permet de sûrement sensibiliser monsieur et madame tout le monde, mais aussi de jaser avec la gang de camionneurs qui s'intonisent soit en podcast ou soit le midi ou tu sais peu importe tes horaires, mais sont des friands de radio parlée.
Ouais, puis tu sais j'ai une auditrice là qui me parle régulièrement lors de tes passages. Ben, elle s'appelle Maude, je la salue, c'est une des adjointes ici à la station. Puis oui. À chaque fois que tu passes, Ben, bon, elle t'a jamais vu en photo là, mais elle trouve que tu es exceptionnel. Donc j'imagine qu'elle parle de ta voix et de ton contenu, donc c'est très intéressant.
Ben on salue Maude.
Voilà, on salue. Elle va être contente. D'ailleurs, je pense que je te l'avais déjà présenté là, par Messenger. Elle était bien contente de rencontrer Benoît Therrien de Truck Stop Québec. Hey, mon ami, j'ai plein de sujets à jaser avec toi ce soir. Ça peut être lourd comme ça peut être léger. On va essayer de mélanger tout ça tout au courant de la soirée. Mais c'est quoi le camion le préféré des camionneurs selon toi? Quels sont les boys dans le milieu? Là? Bon, je sais qu'il y en a qui sont presque, comment dirais ça, sectaires là, pour certains camions. Mais c'est quoi en majorité que les gars puis les filles, camionneurs, camionneuses, aiment conduire? Puis pourquoi?
Ben écoute, ça dépend de tes choix personnels, mais je pense que le mythique modèle Peterbilt, la marque Peterbilt, intéresse énormément de camionneurs et camionneuses. Pourquoi? Parce que on pourrait comparer à un modèle Harley-Davidson dans la moto. On pourrait parler peut-être de... C'est une marque fétiche. Quand on parle de Peterbilt, puis là, je le sais, il y en a qui vont me dire, ben moi, j'aime mieux un Freightliner, j'aime mieux un Mack, j'aime mieux un Volvo. C'est correct, tout le monde. Mais je pense qu'en très grand nombre, et par le nombre de concessions qu'il y a au Québec, Peterbilt a quand même le vent dans les voiles depuis nombreuses années. Et je pense que les modèles vous irez peut-être googler ça. Mais
moi, c'est le 5,79. Le 5,79, je le trouve beau. Le 5,89 aussi, je le trouve beau. Mais si j'avais à choisir entre les deux, j'irais avec le 5,89 qui me fait penser un peu plus à un camion d'époque, là.
Va googler, Yann, un Peterbilt 379, OK? C'est pas très récent comme véhicule, mais tu vas reconnaître ce modèle-là dans plusieurs films qui avaient des intérêts dans l'industrie du camionnage. Mais il y a aussi le fait que, bon, c'est un camion qui a fait tourner bien des têtes et qui a pris de la valeur avec le temps.
C'est un camion avec un long nez, là.
Oui, oui. Il est classique. On appelle ça un modèle classique. Ce modèle-là, quand on en voit, parce qu'il en reste encore plusieurs sur le marché, mais le camion que tu as peut-être payé quelques dizaines de milliers de dollars pour tourner autour du 100 000, 120 000, bien, aujourd'hui a pris de la valeur. Quand ils sont restaurés de la bonne façon, prennent encore plus de valeur. Et il y a des gens qui vont ne jurer que par ça. Pourquoi? Parce que c'est un emblème du camionnage. La technologie n'a pas atteint ce camion-là. Donc, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de régénération. Fait que c'est un modèle de camion qui plaît à certaines personnes. Puis en plus, Yann, c'est qu'on est incapable de brancher un logbook électronique dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la technologie de brancher ça. Donc, les gens qui possèdent encore le modèle 379 puis tous les modèles antérieurs à ça, peuvent circuler sans l'obligation d'avoir un log électronique. Il faut qu'ils continuent de faire le beau log papier qu'on avait dans le temps, mais ça aura permis de continuer avec l'ancienne mentalité. Je ne retournerai pas au log papier, là, crois-moi. Là, je ne retournerai pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'un log électronique, ça t'empêche de déraper de temps en temps, mais ça te fait passer de très belles nuits. Et aussi, ça te permet d'avoir une vie un peu plus régulière. Vous allez me dire, oui, je reviens une journée et demie, deux jours plus tard, mais c'est comme ça. C'est que normalement, on aurait dû faire ça. Il y a de nombreuses années, ce qu'on appelait le log papier, je devrais pas dire ça à la radio, faut le dire pareil, mais c'est que, une journée de 1000 km, on faisait un beau trait en 10 heures. Ça n'existe pas un camion à 100 km/h, mais il n'y avait pas de moyen de vérification, puis il n'y avait pas de moyen pour les contrôleurs routiers de venir dire « Je trouve que tu as roulé vite », mais ils ne pouvaient pas t'accuser comme tel. Mais, tu sais, on sait très bien que c'est impossible de partir le matin et d'arriver, mettons, à l'heure de ton podcast et dire « J'ai fait un beau 1000 km en 10 heures ». Ça n'existe pas, là, tu sais. Puis surtout un camion, on le sait, quand on rentre sur une autoroute ou quand on part à une intersection, une lumière ou tout ça, c'est lent, c'est long. On est incapable de monter ça à 100 km sans avoir parcouru peut-être 2, 3, 4 km à cause du chargement, puis à cause de la force du moteur aussi. Fait que c'est... Tu sais, retourner en arrière, j'irai pas. Le log électronique, bravo. Depuis ce temps-là, il y a moins de répartiteurs qui peuvent dire « Ben, es-tu capable de me faire une belle mission spéciale? Cette nuit, on va partir de tel endroit puis on va aller à l'autre. Au diable les heures. Puis demain matin, on se reparle du client. Ben, aujourd'hui, avec un log électronique, je te dis pas que ça se ferait pas, mais tu as énormément de chances de te faire intercepter dans ta journée par une balance et de te faire dire « Amène-moi ton log, shippe-moi par courriel ton log électronique » et de découvrir que tu as roulé toute la nuit puis que tu as dépassé tes heures. Bien, ça va coûter la totale et tu vas être ce qu'on appelle « groundé ». Tu vas être stationné dans le cours de la balance et tu pourras repartir quand le contrôleur routier où la personne qui s'occupe de ça aura dit « Bon, mais tu peux repartir seulement que, je ne sais pas, vendredi matin, 10 heures, tu sais. »
OK. Fait que le Peterbilt 379, là, c'est un des classiques dans l'industrie du camionnage. En même temps, c'est des vieux camions. Tu me dis, bon, c'est possible de les rebâtir, de les remettre à jour. Par contre, pour ce qui est de la technologie, c'est un petit peu plus difficile d'en mettre à l'intérieur. Est-ce que c'est fiable quand tu, quand tu es un broker, tu es ton propre employé puis tu travailles pour des entreprises, c'est-tu fiable ce type de camion-là quand tu le rebâtis?
C'est très fiable. Ça dépend quel dealer l'a rebâti ou quel garage l'a rebâti. Mais généralement, un camion, là, on va se le dire, c'est un moteur, une transmission puis un paquet d'ajouts. Aujourd'hui, ce qui est peut-être Je dirais pas que c'est un accro, mais tout ce qui est électronique, m'a dit, tu rebâtis de quoi? C'est qu'il faut que tu connaisses tous les schémas d'électronique. Mais un camion, nécessairement, on enlève le moteur, on remet un autre moteur. Il y a des camions, Yann, qui... bon, il y a des flottes qui sont rendues à 1 500 000, 2 millions de kilomètres, ce qui est un peu plus que ton véhicule personnel. Bien, ils rebâtissent un peu le moteur. Fait qu'ils font affaire avec leur concessionnaire et vont dire, est-ce que tu peux rebâtir mon moteur? Ça va coûter quelques dizaines de milliers de dollars et ça devient presque un moteur neuf après. On repart avec ça. Ce qui peut briser après ça, c'est tout ce qui est autour. Ça pourrait être le moteur, mais généralement, quand il est rebâti, il est bien rebâti. Et tout ce qui est autour pourrait être à changer, mais ça, on va le vivre sur la route bien souvent. Ça veut dire que si je pars ce soir et je m'en vais vers la Pennsylvanie et que l'alternateur me lâcherait, bien, je vais contacter un aide routière qui va venir me remplacer l'alternateur en bordure de la route ou directement dans un truck stop. Et je vais repartir quelques heures après en payant le bill deux fois trop cher, mais je vais être capable de repartir après puis d'avoir... un camion qui roule, tu sais, c'est pas annuellement là pour avoir conduit quelques années, annuellement là, c'est pas quelque chose de très disons fréquent d'avoir des bris, mais c'est souvent des gugus qui brisent ou des crevaisons. Puis on est pneumatique sur un camion, les freins sont pneumatiques, tout ça, donc ça peut être une fuite d'air. On fait venir on appelle ça un road service, nous autres, mais une assistance routière d'un concessionnaire, d'un garage proche d'où ce qu'on est, qui vont venir nous réparer sur place, okay. Que ce soit une crevaison, une fuite d'air ou whatever.
Les camionneurs, est-ce qu'ils ont tous une base de mécanique? Parce que souvent, on envoie des camionneurs qui jouent un peu dans le moteur en attendant que l'aide arrive. Là, quand vous faites le cours qui est dispensé au Québec, là, y a-tu de la mécanique qui est donnée dans ces cours-là un peu?
C'est zéro obligation de savoir changer une ampoule, un globe ou de, je sais pas moi, rebrancher un fil. C'est sûr que quand tu vas appeler au garage, mettons, moi, je travaille pour Transport Yannick Marceau, je vais appeler au garage parce que j'ai une lumière qui fonctionne pas sur ma remorque. Il est possible qu'à l'intérieur, ils me disent, peux-tu aller voir à tel endroit sur la remorque, me dire si tout fonctionne bien? Je vais pouvoir te répondre oui ou non. Et à partir de là, ben au garage, ils vont peut-être me dire, parfait, ça va te prendre une assistance routière. Donc, je vais t'envoyer un road service sur place, si possible, dans un truck stop, parce qu'une fois que tu es en bordure d'autoroute, c'est plus cher. Fait que, va-t'en à tel truck stop, même si c'est juste une lumière, là, il n'y a pas réellement de danger. Et puis, rendu au truck stop, ben on pourra techniquement te réparer et trouver la source du problème. Ça va coûter moins cher. Mais nul besoin de savoir être mécanicien ou d'avoir un minimum de mécanicien. C'est toujours un atout, mais les entreprises vont vous embaucher même si vous ne savez pas comment ça fonctionne. On va vous poser des questions, c'est à vous de répondre, mais... Je te dirais que je ne sais pas s'il y a 20 % des camionneurs qui ont une base de mécanique aujourd'hui, là, en 2025.
OK, mais tu me dis, si je suis sur l'autoroute, quand ils vont venir faire le service de dépannage, c'est plus cher. Si je suis sur dans un rest area en français, comment ça se dit? C'est
une halte routière.
Une halte routière, c'est moins cher. Pourquoi? Je ne comprends pas.
C'est une halte routière. Quand tu es en dehors du truck stop, Yannick, là, c'est que les truck stops ont à peu près, à 70-80% un garage de mécanique là. Donc, tu arrives avec ton véhicule, rouvre les portes de garage, rentre en dedans, fais ce qu'il y a à faire au niveau de la réparation. C'est moins cher que de faire venir une unité de service qui coûte la totale. Ça a beau dire, il y a des fois où que je peux pas rouler, tu sais, j'ai une crevaison. S'il me reste un kilomètre pour me rendre au truck stop, je vais y penser à deux fois si je suis pas capable de me rendre au truck stop, mais c'est parce qu'une carcasse, tu sais, vous en voyez le long des autoroutes, là, les espèces de grosses carcasses, c'est dangereux que quand tu as une crevaison, que ton pneu se défasse comme ça et qu'il y ait des autos, surtout du soir, des autos qui voient pas cette carcasse-là sur la route, passent dessus, donnent un coup de roue, puis il y a un risque d'accident rendu là. Fait que moi, je pense que, tu sais, faut toujours penser à deux fois. C'est correct que ça va coûter quelques dollars de plus. Fais les changements en bordure d'autoroute. Au minimum, tu n'auras pas quelqu'un, un accident ou whatever, sa conscience. Là.
Voilà, 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 je comprends mieux. Puis est-ce que les cabines rallongées, je vois souvent ça aux États-Unis, des gars avec un bed derrière, là, le fameux lit derrière, c'est presque le double. J'en vois rarement au Canada. C'est-tu parce qu'aux États-Unis, c'est légal, puis au Canada, c'est illégal, ou au Canada, on juge juste qu'on n'a pas besoin de ça?
En fait, c'est que c'est un transport qui est spécialisé. Plus ce qu'on appelle le lit, le bed, est long, on appelle ça quasiment un Wanabago rendu là, là. Au lieu d'avoir quelques pieds en arrière du banc du conducteur, mais on peut parler des fois de 20-25 pieds qui a été modifié à l'arrière. Ça fait vraiment, tu vis dans ton camion, tu habites ton camion à l'année longue. Tu vas remarquer qu'il y a énormément de transports d'auto qui se font avec ces genres de camions-là, la compagnie Reliable aux États-Unis, Camion Orange, a souvent ce type de bed-là. Je pense qu'on demande aux chauffeurs de rester longtemps dans le camion puis de parcourir d'est en ouest. Ici, ben, à cause des contraintes, le chargement, le type de transport, on pourrait le faire, mais il faudrait qu'on ait des contrats blindés à l'année avec un type de transport qui n'a pas besoin d'avoir une 53 pieds à l'arrière. Fait que tout est une question de longueur, largeur dans notre industrie. Donc, éventuellement, ben le camion a quand même un beau bed, un Wanabago, il a un lit, il peut emmener sa conjointe puis vivre dans le camion, mais ça restreint la grandeur de chargement. Donc, si j'emmène des véhicules, j'emmène un type de transport très spécialisé, bien, ce qui va arriver, c'est que je vais pouvoir garder cette espèce de belle couchette-là, avoir un peu de confort. Tu sais, vivre dans un camion, c'est tel que tel. Les camionneurs le font en principe quelques jours par semaine ou des fois, ils partent une dizaine de jours ou à peu près 14 jours quand ils vont dans l'Ouest américain, quand ils sont pas en équipe. Bien, ils reviennent, tu sais, tu as hâte de débarquer aussi à un moment donné. Fait que d'avoir ce confort-là, c'est sûr qu'on aimerait tous avoir ça probablement, mais il vient en sorte que à cause de la longueur puis à cause du type de transport qu'on fait principalement ici, la neige aussi, bien, ce type de cabine-là, quoique très intéressante, bien, on est moins en mesure d'avoir ça sur nos camions. Puis c'est pas une mode tellement canadienne versus une mode américaine. Puis dans le sud des États, là où il fait beau, il fait chaud presque à l'année, bien, on en voit beaucoup de ces camions-là. Puis si tu cherches, tu fais une recherche sur Reliable Transport, tu vas trouver ben, une flotte de ce type de camion-là avec des couchettes très larges. Est-ce qu'il y a une douche là-dedans? Il y a certains qui ont des douches là-dedans avec une petite pompe à l'eau. Il y a des lavabos, tout ça. Tu sais, c'est... Mais il ne faut pas aller à du moins 5, moins 10, moins 15 parce qu'à un moment donné, l'eau...
Voilà. Oh, là, OK, voilà. Mais techniquement, on pourrait rouler avec ce genre de camion-là avec une cabine derrière qui est très, très allongée sans problème.
Oui, effectivement. Okay. Ben, on pourrait le faire, mais c'est parce que ben, si je t'ajoute 25 pieds de couchette en arrière, ben, il faut que je réduise ce qu'il y a dans le trailer. Il faut que je réduise mon trailer. Donc, c'est ce qui est payant, c'est un trailer bien plein. Notamment, on connaît les papetières au Québec. Là. Les papetières vont te charger, écoute, il faut quasiment arriver là plein de carburant parce que quand ils te chargent, ben des fois, il faut enlever un rouleau parce qu'on n'est pas capable de tout prendre le poids. Mais ces compagnies-là font moins de ce type de transport-là. Ça va être moins pesant. Bon, ils ont peut-être moins besoin d'en avoir plein la remorque. Mais nous autres ici, ben ça fonctionne avec le poids et la longueur. Donc, de la 53 pieds. On a de la 48 pieds aussi. Moins régulier, mais de la 53 pieds, c'est chose commune dans notre industrie.
Ben, on va parler de plein de sujets ce soir, des sujets intéressants et divertissants, mais des sujets aussi qui peuvent choquer certaines personnes. Commençons donc avec justement ces fameux U-turns là, qu'on voit une fois de temps en temps avec des camionneurs qui tentent de reprendre leur chemin d'une manière extrêmement dangereuse. Puis malheureusement, bien, ça fait des morts sur nos routes. Je pense que le dernier qui est survenu, c'est survenu sur la 55, là, un gars qui a décidé de faire un U-turn. Est-ce qu'on en sait plus sur cet incident-là?
Bien, il y aura certainement des accusations qui seront portées sur ce chauffeur-là. Puis, je ne pèserai pas mes mots, là, parce que dans notre industrie, on se dit professionnel. On a des formations ici au Québec. On est censé être des professionnels de la route. On veut être des professionnels de la route. Notre image prend tellement de temps à se bâtir qu'un événement comme ça, qu'est-ce que les gens pensent? Bon, ça y est, l'industrie du transport est malade, ça va tout croche. Font des U-turns à 55. Et quand on fait un U-turn sur une voie comme la 55, on sait très bien à un moment donné que ça se peut qu'il y ait des gens... Tu sais, j'ai vu des accusations parce qu'on avait posté sur Truck Stop Québec cet accident-là. Il y a du monde qui dit, ouais, mais là, les gens, ils voyaient pas qu'il y avait un trailer qui était... C'est parce qu'à un moment donné... Il y a des gens qui voient moins. Il y a des gens avec l'âge qui, bon, ont peut-être moins ce réflexe-là de regarder très loin en avant. À qui la faute? Ben moi, je dis que ça part d'un U-turn sur la 55, c'est de la faute d'un camionneur. Et tu n'as pas d'affaire à faire un U-turn sur une autoroute. Tu n'as pas d'affaire à faire un U-turn sur une voie publique. Il y a tellement d'espace. Va te revirer d'un stationnement. Prends le temps. Puis, je comprends que la 55, si tu as manqué, mettons, la sortie, là, où ce qu'il y a eu, ça se peut que tu fasses quelques kilomètres pour aller retrouver un endroit pour être capable de revirer. Fais-les ce nombre de kilomètres-là, mais tu vas sauver peut-être la vie, là. Il y a deux personnes qui sont décédées dans cet accident-là. Mais ça reflète le mauvais côté, la mauvaise formation ou, disons, des gens qui sont très téméraires dans notre industrie qui se disent « Ah oui, il m'a faire un U-turn, c'est pas grave. » Bien, il va de la vie des usagers de la route. Il va de la vie aussi de... Ben, ça se peut que vous risquez votre propre vie en faisant ça. Puis, faire un U-turn, c'est à 55 avec un camion et une remorque qui a à peu près, là, vite, 75 pieds. Tu sais, ça prend de la place. Ça se peut que tu aies de la misère, tu te reprennes 2-3 fois pour vraiment revirer de bord. Faites-le donc pas. C'est pareil comme si je demandais aux gens, vous allez sur la métropolitaine, faites donc un U-turn. Tu peux pas faire ça. C'est carrément pas professionnel. Puis c'est une très grave erreur de jugement. Puis bon, camionneur...
Mais c'est arrivé, c'est à 55, on parle bien de l'autoroute là, qui part de Drummondville puis qui monte jusqu'à quoi, Sherbrooke?
Ben, mettons, de la sortie 210 sur la 20 et qui va jusqu'au pont La Violette. Fait que c'est ce tronçon-là qui est supposé depuis... Je sais pas si tu te rappelles, là, Yann, là, mais depuis combien d'années qu'il y a des annonces de nos gouvernements qui disent, bon, ben on aimerait ça avoir un doublement de cette autoroute-là, puis il n'y en a pas. C'est incroyablement grave, là. Tu sais, on a eu des promesses. Moi, depuis que je suis haut comme trois pommes, qu'on me dit qu'on va doubler cette autoroute-là, puis c'est pas fait, je comprends pas pourquoi qu'elle n'est pas faite. Il y a des travaux qui ont débuté, là, au début, proche de l'Avin, mais il semblerait que, puis c'est une rumeur actuellement, il semblerait qu'il va y avoir une pause sur cette construction-là de la route, là, tu sais.
Bien, je suis en train de regarder parce qu'effectivement, moi, je pensais pas que c'était la 55 qui allait directement sur le pont La Violette. Je pensais que c'était la 55 qui passait de Drummondville jusqu'à Sherbrooke. Mais tu as raison, y a pas de, c'est une autoroute, mais il n'y a pas rien dans le centre là, qui empêche les conducteurs un peu tata de faire un U-turn à cet endroit-là. Ce qui fait en sorte que quand tu roules, c'est-tu une zone de 90 ou une zone de 100?
Ouais, à ma connaissance, je pense que 90 un bout, peut-être 100 quand... vis-à-vis, je pense, les sorties proches de Nicolet, là, ouais. Wallinac, là,
Bécancour. Je ne compterais pas de mensonges des fois comme on entend sur les zones hertziennes, là, mais mettons que c'est 100, les gens roulent à 120.
Ben oui.
Fait que quand tu roules à 120, tu ne t'attends pas à rencontrer un véhicule qui fait un U-turn. Là.
Non, effectivement.
Qui te coupe le chemin. Là.
C'est surtout quand ça arrive de soir. Tu sais, je ne peux pas concevoir que quelqu'un a pris la décision de vouloir faire un U-turn parce que probablement qu'il s'est trompé de chemin ou en tout cas, il voulait revirer de bord. Et moi, je ne peux pas concevoir qu'il n'a pas pensé de dire « je vais aller revirer plus loin ». Comment que je me rallonge de 50 ou 60 kilomètres ben, au minimum, je vais être sécuritaire. Tu sais, sauver quelques minutes, quelques kilomètres, pour qu'après ça, il y ait des gens qui en payent de leur vie. Puis, tu sais, achetez pas votre appareil, là, mais tu sais, moi, de voir des gens accuser les pauvres personnes qui ont rentré dans remorque, il y a tellement d'usagers de la route qui ont peut-être de la misère des fois avec leur vue, qui ont peut-être de la misère avec d'autres choses. Tu sais, peu importe, il y a des personnes qui ont un certain âge. Mais en faisant un U-turn, c'est sûr que si vous avez ce type de personnes-là qui circulent, vous allez avoir peut-être de la misère à un moment donné à essayer d'expliquer que, je sais pas pourquoi, mais il y a un véhicule qui m'a rentré dedans parce que je faisais un U-turn. Tu n'as pas d'affaire à faire un U-turn, c'est de la conduite dangereuse. Des fois, c'est de la ligne double. Ça peut être la ligne de dépassement pointillée dans ce secteur-là, mais c'est de la conduite dangereuse principalement, là.
Il y a des gens qui accusent ceux qui se sont qui ont rentré dans le camion qui est en train de faire un U-turn. T'as vu ça passer? Ah oui.
Ah oui, puis moi, tu sais...
Des fois, c'est un test de QI aussi, là, quand tu regardes les commentaires en dessous. Là.
Ben, c'est un peu comme dire, OK, je vais creuser un trou là, sur une autoroute quelconque, là, je vais changer le ponceau, mais j'avise pas personne. Ouais. Tous ceux qui tombent dedans, ben, c'est des nonos, c'est des tatas, c'est des tarlats. On peut pas penser comme
ben
ça.
Non.
Être professionnel, on met de la signalisation, ben la personne qui a fait ce geste-là, puis là, tu sais, je le sais, il y en a qui vont te dire que c'est des gens de Brampton, tout ça. La compagnie vient de l'Ontario, mais a des entrepôts au Québec, en tout cas des ports d'attache au Québec. Et c'est un Canadien qui chauffait le camion. Fait que arrêter avec les accusations de toutes sortes d'ethnies, là, c'est pas le but. Le but, c'est un geste volontaire, qui est à proscrit de notre milieu du transport, puis est arrivé ce qui est arrivé. Il y a deux personnes qui ont perdu la vie à cause de ça.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'expérience de route de ce camionneur-là?
J'ai pas le nombre de mois d'expérience, mais chose certaine, c'est que, en tout cas, il y avait assez d'expérience pour aller plus loin, aller se revirer de bord, puis revenir après. Je comprends que c'est peut-être des fois 20 km aller, revirer de bord, 20 km revenir, mais 40 km, c'est peu pour sauver la vie des gens.
Question niaiseuse, puis en même temps, ça va nous amener vers le prochain sujet, mais y en a-tu qui font des niaiseries intentionnellement? Ils sont écœurés de leur vie, puis ils créent quelque chose pour, je sais pas moi, occasionner des problématiques qui vont peut-être les faire sortir des problématiques dans lesquelles ils sont. T'sais, je veux pas trop rentrer dans les détails, pas donner d'idées à personne, mais tu sais, il y en a qui vont se mettre dans la merde intentionnellement parce qu'ils sont juste écœurés de faire leur petite routine. Puis ça, malheureusement, dans ce cas-ci, ça a été extrême. Là. La personne, il y a des gens qui ont perdu la vie. Là.
Mais regarde, Yannick, OK, on pourrait parler de suicide by truck, mais c'est peut-être moins le domaine pour ça. Mais il y a des gens, quand on a fait le reportage avec J.E., il y a des gens qui écoutent un film en roulant. Ça, c'est sacré, les deux mains dedans, puis pas avoir de respect de personne autour de nous autres. Quand on roule sur une autoroute, puis que c'est plus important d'écouter un film que d'avoir les deux yeux concentrés sur le devant du camion, on ne peut pas tolérer ça dans notre industrie. Puis Exactement. On avait filmé un camionneur, j'étais avec le caméraman, j'ai dit « filme-le ». Il a pris deux cellulaires pour le filmer. Il a filmé la scène où le camionneur d'une compagnie ontarienne écoute un film en roulant. On ne peut pas accepter ça. Je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont utiliser le cellulaire au volant. Ça se fait dans notre industrie. Je reçois des photos des fois, puis tu sais, je m'aperçois que c'était quelqu'un qui avait le cellulaire au volant. On nous demande de ne pas l'identifier parce qu'il a filmé une scène d'accident, quelque chose. Fait que c'est bien sûr que si je l'identifiais, il peut mériter une contravention, mais le cellulaire au volant, c'est une plaie. Que ce soit dans le camionnage ou que ce soit dans les automobilistes en tant que tels, les gens, là, tu sais, utilisent le cellulaire d'une façon démesurée. Est-ce que de prendre ces messages sur une lumière rouge, ben quand ta tombe verte, j'étais en arrêt, pas de danger. Mais c'est parce que quand ta tombe verte, ça fait 20 secondes qu'elle est tombée verte, t'es pas avancé encore. Puis il faut pas que tu saches après la personne qui va te crier du klaxon en arrière parce que tu bouges pas. Ça, c'est des comportements dangereux. Je sais qu'il y a des gens qui, dans la Beauce, on a connu l'accident, la tragédie à Vallée-Jonction, ben il y a des gens encore qui passent dans ce secteur-là, chargés à bloc, qui ne regardent même pas là où il y a une enseigne de tester les freins. Puis même quand on teste les freins, on te le dit, tu n'as pas d'affaire d'être plus pesant que tant de tonnes. C'est pas grave, on descend la côte pareil, on va prendre l'avenue Jacob là, dans ce secteur-là, mais on descend cette rue-là pour essayer de sauver, mais c'est pas là la sortie. C'est ça aussi, se mettre dans chenoute, là, puis de pas avoir de respect envers les consignes. Les contrôleurs routiers actuellement sortent pas des balances. Pourquoi? Parce que ben, ils ont eu juridiction sur le fait d'avoir un port d'armes. Et suite à ça, ben il y a eu des jugements, il y a eu contestation de la SAAC. Et bon, dans le dernier jugement, la juge a dit restez dans balance parce que vous pouvez pas aller surveiller des camions qui pourraient être un transport illicite de toutes sortes de choses, bien, restez dans balance jusqu'à temps que vous soyez formé pour avoir une arme sur vous, là, tu sais, ou faites-la avec les agents de la Sûreté du Québec, mais eux autres n'ont pas le temps là, de commencer à surveiller puis d'emmener un contrôleur routier à bord puis tout ça, puis faire des actions concertées, bien, il faut que ça prenne quelque temps à monter ce programme-là puis d'aller faire des interventions. Fait que non, tu sais, à savoir s'il y en a beaucoup, je pense pas, mais il y en a quand même quelques-uns qui, des fois, puis je suis sûr qu'il y a des automobilistes qui pourraient te texter en disant il y a un camion devant moi, il se promène de gauche à droite. Quand je le dépasse, je vois toute la lueur à l'intérieur de la cabine, il y a un cellulaire dans les mains ou il y a une tablette dans les mains. Mais on ne doit pas accepter ça dans notre industrie. Il y avait eu une poursuite il y a quelques années de la part de gens qui avaient eu un accident envers la compagnie Coca-Cola. Le camionneur avait le cellulaire dans les mains. Il n'y avait pas eu de directive de l'entreprise de sanctionner les chauffeurs qui avaient le cellulaire au volant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben l'avocat de la partie qui était rentrée dedans par un camion, ben, je pense qu'il y avait eu des décès. Ben là, on a collecté quelques millions, mais en allant fouiner qu'il n'y a jamais eu de directive de l'entreprise, ben l'entreprise a payé encore plus parce qu'elle ne s'est jamais mis de directive-là. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Bien, ça a été plusieurs millions, on appelle ça des poursuites nucléaires. Mais il y a eu une poursuite et les gens, la compagnie a dû payer envers ces gens-là des millions de dollars. Ils auraient pu s'en sauver en ayant une directive. T'sais, c'est pas pour rien. Toutes les compagnies de transport du Québec, s'ils l'ont pas, là, faites-le. Mais ont des directives que si on vous prend le cellulaire au volant, c'est un congédiement. Et si c'est un congédiement, bien, quand l'autre entreprise où vous allez faire application va m'appeler, je vais devoir leur dire, il y avait le cellulaire au volant, parce qu'il pourrait avoir des poursuites éventuellement. Et on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça dans notre industrie. Fait que, c'est un peu ça. Mm-hmm. Il y a beaucoup de sous parmi les avocats à aller chercher quand il y a des comportements fautifs comme ça. Là.
Puis les suicide by truck, les gens qui décident de mettre fin à leur jour, puis je rappelle, on est sur les ondes hertziennes, puis on a une certaine responsabilité, puis on va les prendre. Le suicide, c'est une solution permanente à des problèmes qui sont passagers. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont un boulet pour leurs proches, alors que c'est tout à fait le contraire. Vos proches, les gens qui sont autour de vous sont là pour vouloir vous aider. Mais malheureusement, il y en a qui vont au-delà de ça, puis qui disent non, moi c'est terminé, puis qui choisissent un beau gros camion avec un camionneur dedans, ça doit être épouvantable. T'as-tu déjà rencontré des camionneurs qui ont vécu ces événements-là? Puis ça arrive-tu plus souvent qu'on peut le penser?
C'est pas quelque chose de très fréquent, mais ça blesse émotionnellement, psychologiquement un camionneur jusqu'à la fin de ses jours. On le sait, tu l'as très bien dit, que le suicide, c'est pas quelque chose... Tu sais, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des dettes, quand vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, il y a des services qui vont vous aider. C'est jamais la fin du monde. Tu sais, des fois, il y a l'orgueil là-dedans, mais passer au-delà de l'orgueil, puis aller rencontrer des spécialistes qui vont vous aider. D'avoir des dettes, je pense que... Comme un des mortels en a toujours un peu de dette, là. Si les vôtres sont très, disons, problématiques, ben vous allez voir un syndic, puis vous mettez un syndic là-dedans, les appels vont cesser, tout ça. Appelez les lignes d'entraide, il y en a plusieurs. avant de penser à faire le geste. Premièrement, ben, vous allez détruire la vie d'un camionneur. Vous allez aussi peut-être détruire son métier dans le sens où est-ce qu'il va vouloir embarquer dans le truck. Il y a des gens qui ont vu des suicides by truck. Ce qu'ils font, c'est que c'est des automobilistes. Puis là, tu sais, on n'a que la pointe de l'iceberg parce que des fois, tu sais, l'hiver, on dit « Ah, il a quitté son chemin pour aller percuter un camion, il en est décédé. » Mais est-ce que c'est vraiment une perte de contrôle? Est-ce que la personne voulait mettre fin à ses jours? Mais ces statistiques-là, on ne les connaît pas. Fait que de rouler et de vouloir mettre fin à sa vie, dites-vous une chose, à bord d'un camion, on voit tout, puis on va voir les dernières secondes de votre vie. Et ça va rester imprégné dans notre tête jusqu'à la fin de nos jours, pour ne pas dire qu'on va faire des cauchemars pendant peut-être quelques semaines, qu'on ne reverra pas ça, puis quand on va repasser sur ce tronçon de route-là, on va être capable de repasser là. Est-ce que je vais toujours avoir la crainte quand je suis, prenons la 55, puisqu'on en a parlé tantôt, quand je vois un véhicule dévier de sa course, parce qu'il a peut-être le nez dans le cellulaire, il n'y a pas d'intention de mettre fin à ses jours, mais je vais toujours avoir cette crainte-là. On a un organisme dans notre industrie qui s'appelle la SSPT chez les camionneurs, c'est syndrome post-traumatique, là, qui aide et qui prennent, écoute, par la main un camionneur qui aurait eu un incident comme ça ou qui aurait eu un accident, peu importe, puis qui a un syndrome post-traumatique, ça veut dire qu'il y a des séquelles suite à l'accident, bien, on va le mettre en contact, premièrement, avec une personne ressource qui est un père aidant, et une personne qui va parler, va déceler un peu la gravité de la personne. C'est pas des spécialistes en partant, mais il y a quand même beaucoup de formations là-dessus. Et on va tout de suite les mettre en relation avec un thérapeute professionnel. Ça peut être psychologue, ça peut être, tu sais, peu importe. Et on va tout de suite les prendre en charge. Il y a des gens qui, après un mois, sont capables de retourner sa route parce qu'ils sont faits fort. Il y en a d'autres qui vont malheureusement devoir quitter l'industrie parce qu'ils ne seront plus jamais capables de voir un véhicule arriver face à face avec eux. C'est plate à dire, là, mais à cause de la grande bay window qu'on a en avant, là, le pare-brise, bien, on voit jusqu'à temps que vous ayez un impact avec le camion, bien, on voit votre figure. Puis il y a des gens qui se rappellent énormément de ce temps-là. Ça peut être une seconde, deux secondes, mais c'est pareil comme si on vous avait vu pendant plusieurs minutes, mais ça reste gravé dans notre mémoire. Si vous pensez faire ce geste-là un jour, vous dites, ah, un camion, ça serait-tu le fun?
Ben, 1-866 appelle. 1-866 appelle.
1-866 appelle. Puis sachez une chose, c'est que c'est pas infaillible, votre geste, là. Tu sais, il y a des chances que vous surviviez à ce geste-là. Il y a des chances que vous brisez la vie d'un camionneur. Puis, tu sais, de mettre fin à ses jours, c'est jamais le bon moyen de, disons, cesser ce qu'on peut appeler nos problèmes ou peut-être même l'orgueil. T'sais, aller voir quelqu'un, parler à quelqu'un. Tu l'as dit, là, 1-866.
Appel.
Parler avec des gens, puis c'est pas des gens qui vont vous juger. Puis c'est pas des gens qui ont de l'intérêt à vous juger. C'est des gens qui vont trouver une solution à tous vos problèmes. Puis j'espère que le message va passer. Utilisez pas votre véhicule pour mettre fin à vos jours, ça donnera rien. Vous scrapez trop de vie autour. Puis, bon, pour y en sortir, légumes, là, tout ça, puis je voudrais pas que quelqu'un, tu sais, veuille mettre... Appelez-nous, appelez Yannick, appelez quelqu'un, mais parlez à quelqu'un avant de poser le geste. Puis, je suis certain qu'il y a une solution. Malgré qu'elle apparaît pas dans votre tête présentement, il y a certainement une solution. Et... bon, pour ceux et celles qui ont vécu des suicides by truck, bien, c'est des gens qui vont avoir ça jusqu'à la fin de leur jour dans leur tête. C'est imprimé, il n'y a rien à faire. Puis il faut nécessairement être capable de passer par-dessus ça, le temps de retourner travailler, puis de faire des fois ce qu'on connaît le mieux, chauffer un truck, là, tu sais.
Est-ce que on en sait beaucoup? Y a-tu des statistiques sur la santé mentale de nos camionneurs? Parce que veut pas, c'est des gens qui travaillent seuls de longues heures, puis de moins en moins on socialise là, quand on est camionneur, à ce qu'on me rapporte dans le temps des années 60-70, quand j'avais la chance de rencontrer dans les dernières années un gars qui avait vécu ces époques-là. Il me disait que c'était les communautés de camionneurs, c'était assez serré, t'arrêtais d'être rockstop, puis tu jasais avec les boys, puis c'était quasiment rendu une secte. Le mercredi soir, on arrêtait là, on prenait une bière, puis après ça, on allait se coucher. Est-ce qu'on en sait beaucoup sur la santé mentale de nos camionneurs? Comment ça va? Est-ce que c'est de pire en pire?
Bizarrement, Yann, la venue du cellulaire a rapproché des gens. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu pars, t'es père de famille, puis tu pars le dimanche, puis que ton jeune braille parce qu'il sait que tu vas être plusieurs jours parti, ben c'est un petit coup dur, là, tu sais, de partir et savoir qu'il y a des gens qui aimeraient ça que tu restes à côté d'eux autres. Le camionneur, là, va manquer généralement des fêtes de famille, va généralement manquer des rencontres avec les professeurs, des tournois de hockey, des tournois de balle, des tournois de football, soccer, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il est parti de longues journées, puis il est parti à la semaine. Fait que manquer ça, c'est sûr que ça va t'affecter quelque part. Est-ce que la majorité des camionneurs ont des problèmes psychologiques? Je pense que c'est le burn-out qui guette majoritairement les camionneurs et non pas, tu sais, de sauter une coche, là, mais le burn-out, faire en sorte qu'on travaille beaucoup d'heures. Un métier de camionneur, là, c'est entre, bon, on va parler généralement, il y en a qui en font moins, n'en faire plus, peuvent pas, mais c'est entre 50 et 70 heures par semaine. Règle générale, quand tu fais des États-Unis, quand tu parcours l'Ouest américain, ben on va maximiser le log électronique, donc on va faire entre 50 et 70 heures. De façon régulière, ça veut dire que si cette semaine j'ai fait 65 heures, la semaine prochaine j'en fais 60, l'autre semaine j'en fais 70, ben c'est beaucoup d'heures. Généralement, les auditeurs qui te syntonisent font probablement 35, 40, peut-être 45 heures. Mais dans notre industrie, c'est souvent du 50 à 70 heures. Puis, ce qui guette le plus généralement les camionneurs, comme je disais, ben c'est burn-out, c'est fatigue, tout ça. Bizarrement, là, Yann, là, je te dirais que dans le temps où on avait un log papier, c'est qu'on avantageait pas mal souvent le dodo d'après-midi. Ça veut dire que, je te donne un exemple. Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui a besoin de la sieste là, t'sais, après un dîner ou quelque chose comme ça, mais il y a certains camionneurs que oui. Fait que tu vas manger au truck stop ou tu vas manger dans ton camion. Après ça, tu te couches dans le lit. Puis ça se peut que tu te réveilles 2-3 heures plus tard parce que tu avais besoin de ce sommeil-là. Mais avec un log électronique, je suis obligé de maximiser ça dans une fenêtre de 16 heures au niveau canadien ou une fenêtre de 14 heures au niveau américain. Ça veut dire que si je partais à 6 heures ce matin, à 6 heures ce soir, j'avais 12 heures. Et à 10 heures, je dois m'arrêter que j'aille faire n'importe quoi. Donc, quand j'ai mis la clé à on, ben à 22 heures, je dois arrêter. Et je devrais passer une belle nuit. Mais il y a quelques années, ben on maximisait ça, on dormait 3-4 heures. Là, si je dors 3-4 heures d'après-midi, ça vient d'affecter le temps que j'ai maximum de faire le nombre d'heures de conduite prescrit et le nombre d'heures de travail prescrit dans une journée. Est-ce que ce bout-là devrait être modifié? Je pense que oui, éventuellement. Si on prouve qu'on a fait un dodo, on pourrait peut-être ajouter un nombre d'heures suffisant, mais actuellement, c'est un genre de performance qu'il faut faire. 16 heures au Canada, c'est pas de conduite, c'est 13 heures de conduite maximum, mais aux États-Unis, c'est une fenêtre de 14 heures, dont 11 heures de conduite. 11 heures, tu sais, quand tu as fait 11 heures derrière le volant,
c'est tough.
T'es nécessairement un petit peu fatigué, mais tu sais, t'as eu le temps d'arrêter, peut-être aller prendre une douche, aller ravitailler ton camion, peut-être faire une livraison ou un chargement. Fait que tu sais, t'as quand même fait d'autres activités, mais ça reste que c'est 11 heures pareil dans une journée là aux États-Unis et 13 heures au niveau canadien. Fait que c'est plusieurs heures, effectivement, derrière le volant. Ce qui me fait dire que le burn-out est probablement une des choses qui guettent les camionneurs. Outre la santé psychologique, il y a la santé physique. mange pas toujours bien, là, tu sais. Dans les truck stops, des fois, c'est des chaînes de restauration. J'appelle ça de la moulée. On va se nourrir de malbouffe un peu. Puis après quelques années, problème cardiaque, problème de cérébro-vasculaire, problème de dos. On est des longues heures assis, malgré que les sièges sont très confortables dans un camion. Mais ça reste que... faut choisir nos batailles, faut s'emmener de la bonne bouffe dans le camion ou faut choisir les chaînes de restauration qui ont moins de friture possible, puis d'essayer d'inculquer ça à chaque semaine. C'est pas facile, là, je te le dis, c'est pas facile. Quand ça sent bon et tu sais que le burger, ça prend 25 secondes de commander puis te le donner, c'est bien plus facile que de sortir le petit plat qui est congelé, mettre ça 6-7 minutes dans le micro-ondes, dans le camion, puis d'essayer de manger ça, quoique c'est plus santé. Mais chose certaine, surveiller ça, essayer de surveiller ça, mais tu sais, je suis peut-être le pire que vous... Probablement pire que vous autres là-dessus. Là,
mais comment parlons de conditions de travail. Là. Quand les gars et les filles sont sur la route en camion, ils font du Québec-États-Unis, mettons. Ouais. Est-ce que leur bouffe est payée?
Non. Il y a
ça devrait être payé par l'entreprise. Je veux dire, le gars, il ne peut pas traîner sa cuisine avec lui.
Il ne peut pas traîner sa cuisine avec lui, mais je t'explique, OK? Le gouvernement alloue des frais de repos. OK, c'est une déduction imposable. Ça veut dire que je te donne des montants par repas pour couvrir, dans le fond, ton travail. Ça veut dire que tu vas avoir une prime ton déjeuner, ton dîner, ton souper. Ça couvre pas, avec le taux de change au niveau américain, ce que ça coûte dans un restaurant, mais ça en couvre une bonne partie. Il y a plusieurs entreprises qui ont choisi un mode de rémunération différent, ça veut dire qu'on offre des per diem, ça veut dire que je te donne sur ton millage, mettons, on va faire des chiffrons, je te donne 60 sous du mille pour ta paye et peut-être, je sais pas, 5 sous, 10 sous du mille pour ta portion qui serait normalement attribuable aux frais de repas sur la route. Fait que le per diem, normalement, est comme une avance de fonds sur ton impôt. À fin de l'année, tu vas en retirer moins, puis c'est tout. Mais c'est comme une bonne façon de faire des sous, d'en faire plus. Puis à fin de l'année, il y a un calcul par votre comptable qui va être fait pour dire, tu as passé 200 jours complets sur la route dans la dernière année, fois 3 repas, donc je te dois 600 repas. Et suite à ça, le gouvernement, si tu as reçu un per diem, on enlève ce montant-là. Il y a un calcul qui est fait et tu as le restant qui va te rester parce qu'il va t'en rester nécessairement. Puis c'est supposé couvrir les frais. Mais tu sais, avec 44 % de taux de change actuellement, même si tu vas d'une épicerie acheter le petit plat congelé, il coûte quand même 40 % plus
cher. Exact, exact.
Puis si tu vas dans un fast-food, un trio quelconque à 10 $ au Québec, qui va te coûter 40 % de plus aux États-Unis, nécessairement, ça va avoir un effet sur ta paye qui va avoir aussi un effet sur ton profit ou ta paye à la fin de la semaine. Ça t'a coûté 40 % de plus d'être aux États-Unis. Il y a plusieurs truck stops qui trouvent ça difficile depuis nombreuses années. Les cours sont là pour aller se coucher. Le restaurant fait plus de sous parce que, premièrement, on est dans le just-in-time. Ça veut dire que faut aller livrer. Fait qu'on a un temps déterminé pour aller livrer. Donc, il n'y a pas trop de perte de temps à faire. On rentre dans le cours du truck stop. On ne va même plus manger en dedans. On va se laver, puis c'est tout. Puis après ça, pogne le petit plat congelé. Fais cuire ça dans ton camion. Puis tu manges, tu te couches, puis le lendemain matin, on repart. Mais il y a de moins en moins de truck stops qui font énormément de sous avec la restauration. Il y avait la chaîne Flying G aux États-Unis qui avait rentré des Denis à peu près à la grandeur de leur truck stop. Denis sont vides, puis à des endroits, il a fallu changer pour d'autres chaînes. Des chaînes qui se disaient, on va l'essayer chez vous, que ce soit de la restauration rapide, tout ça. Est-ce qu'ils font plus de sous? Il n'y a pas... Tu n'as pas de salle à manger, tu n'as pas de serveuse, tu as des gens à faire la bouffe, tu as des gens à prendre la commande, c'est à peu près tout. Fait que c'est peut-être un côté plus rentable. Puis si je te disais qu'il y a des truck stops, que si tu ne dépenses pas un montant X, un montant minimum, on va te charger 10 $ ou 15 $ ou 20 $ de frais de stationnement pour la nuit parce qu'il y a un côté rentable. Déneiger une grande cour, là, c'est quasiment un centre d'achat des fois. Là. Déneiger ces cours-là, là, c'est pas 100 piastres, là, c'est plusieurs milliers de dollars par hiver. Fait que, il faut rentabiliser ça. Puis si on s'aperçoit que, je sais pas, moi j'ai 300 trucks dans mon stationnement puis qu'il y a pas, j'ai pas fait 5000 piastres de vente, ça fait pas beaucoup d'argent par camion puis ça fait pas beaucoup de profit à la fin de la journée. Là.
Ah, vous êtes fait fort, les camionneurs, vous êtes fait fort. Je vous rappelle que ce soir, j'ai le plaisir de jaser avec Benoît Terrien de Truck Stop Québec. On va faire une courte pause et on vient tout de suite dans le podcast de Marceau Soir.
Marceau, le soir. Le rock and chill avec Audrey Pinchot. C'est le même feeling que d'assister au MTV Unplugged de ton band préféré, mais dans ton salon ou ton lit ou à pratique de tes kids. On joue des covers, des versions acoustiques. Un paquet d'affaires qui s'écoutent bien tranquille les matins de fin de semaine. Le Rock and Chill, samedi et dimanche, 7h.
Une présentation du show Rock and Chill ultime pour les fans des années 90. Big Muff Génération Unplugged, en supplémentaire le 7 septembre, vous attend à l'Anglicane de Lévis avec ses 7 musiciens en formation acoustique au son de Nirvana, Smashing Pumpkins, Green Day et plus. Billets en vente sur espacedcl.ca.
Ce segment d'émission présenté par Pièces d'auto-économique. Pièces d'auto-économique, c'est des pièces neuves garanties, les meilleurs prix et des grandes marques comme Ribestos, Bosch et Mévotech, pièceéconomique.com.
Linkin Park à Boston, baby!
Boulevard 102.1.
Un autre coup de circuit avec plus de 11 000 inscriptions pour le Rock'n'Ball. Voici qui partira à Boston voir Linkin Park et assister à un match des Red Sox les 1er et 2 août prochains grâce à Dernier Pneus Mécanique.
Oui, allô?
Oui, est-ce que je pourrais parler à Thomas Desforges, s'il vous
plaît? Yes, c'est moi.
Salut Thomas, c'est Denis Gravel à Boulevard 102.1, ça va bien?
Yes, salut Denis, comment ça va toi?
Ben oui, ça va bien.
T'étais occupé, qu'est-ce que tu faisais?
Qu'est-ce que je faisais? J'attendais après vous autres, j'attendais après l'appel, je le savais que vous allez appeler.
Ah ouais, ah ouais! Ben, t'as l'air heureux, t'as vécu quelque chose de cool aujourd'hui? Ouais, pourquoi t'es content qu'on appelle?
Ben là, écoute, je m'en vais à Boston!
Félicitations!
Merci à Béarnais. C'est vraiment un beau voyage, un méga beau trip. Là.
Bravo encore, puis bon trip à Boston. On salue aussi au passage tous ceux qui rouleront avec des pneus neufs Nokian Tires cet été. Sur ce, on se dit au prochain Rock'n'Ball.
C'est le printemps. Temps doux, soleil et frigo vide? Pas grave, Chaloux est là avec plus de 1000 choix de bière à bas prix. Chaloux à Beauport et Saint-Émile.
Imaginez ça 30 secondes. Vous arrivez chez Beauport Nissan ou Sainte-Foy Nissan et avec la location ou l'achat de votre nouveau Nissan, on vous donne le choix entre un rabais jusqu'à 1 500 $, jusqu'à 1 500 $ en crédit pour des accessoires ou même 3 ans d'entretien prépayé. Pas facile de choisir, hein? En avril, vous avez le choix. Alors décidez et roulez avec Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. Certaines conditions s'appliquent, détails en concession.
Chez Québec Brou, là, les mardis et les jeudis à partir de 4 heures, les ailes sont à 50 cents. Ça tombe-tu bien pour le hockey, ça?
Québec Brou, Vanier, Charlebourg et l'ancienne Lorette.
Pas pire, hein?
Ce jeudi 24 avril, c'est l'événement Milwaukee chez Outils Plus.
La plus grande vente d'outils Milwaukee de l'année.
Prix imbattable, promotion exclusive et cadeaux avec achat sur tous les outils Milwaukee. Outils Plus, boulevard Louis XIV, outilsplus.com.
Découvrez l'Association du personnel de soutien administratif du Québec, votre partenaire de croissance professionnelle depuis près de 40 ans. Élargissez vos horizons grâce à des webinaires en ligne, un congrès annuel et un soutien constant pour relever les défis de votre métier.
Mercado.fm vous présente son nouveau porte-parole. Qu'on paye pas parce que ça roule déjà très bien.
T'as bien raison! Voici les offres!
Obtenez une carte cadeau d'une valeur de 50 $ à 30 $ chez Louise Taverne. Ou encore une carte cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ de Fou de la bouffe.
Si ça, ça vous fait pas aller jeter un coup d'œil sur Mercado.fm, c'est parce que vous avez rien compris!
Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Quel est le point commun entre le Mazda CX-5, le CX-30, la Mazda 3 berline et la Mazda 3 Sport 2025? Ils ont tous été nommés meilleurs choix par Protégez-vous. Oui, Protégez-vous les a mis à l'épreuve pour le raffinement, la performance, la sécurité, la fiabilité et bien plus encore. Faites vite, prenez le volant de l'un des meilleurs choix de Protégez-vous et profitez d'un taux de 2,9% au financement à l'achat jusqu'à 36 mois. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Plus que jamais, l'achat québécois est important pour nos entreprises et pour nos régions. Dans les commerces, on achète des produits d'ici. À l'épicerie, on recherche les aliments du Québec. Cet été, on appuie notre industrie touristique en voyageant chez nous. Et on consomme la culture québécoise. Parce qu'en achetant québécois, on se trompe pas. Un message du gouvernement du Québec.
Vous rêvez d'aller en Grèce?
Oui.
Manger des olives?
Oui.
Goûter des olives?
Oui.
Cueillir des olives?
Je pense qu'on a fait le tour des olives, là.
Faire du bateau?
Oui.
Vous faites donc affaire avec CAA parce que CAA organise les meilleurs voyages.
Génial!
Mais maintenant, vous revenez de Grèce.
Oui.
Votre sous-sol est inondé.
Oh.
Votre moral est au plus bas.
Oh.
Pas comme l'eau dans votre sous-sol.
Ben là...
Vous pouvez donc faire affaire avec CAA parce qu'ils assurent votre habitation et vous aident dans les pires moments.
Fait que là, mon sous-sol, il est correct, là.
Du voyage à l'assurance? Pour le meilleur et pour le pire, CAA Québec.
Faites votre épicerie chez IGA et économisez sur l'essence chez Shell. C'est tout simple. Obtenez 3 cents de rabais le litre pour chaque tranche de 70 $ d'épicerie, pouvant aller jusqu'à 42 cents de rabais le litre. Demandez votre coupon à la caisse chez IGA et faites le plein sans payer le plein prix. Certaines conditions s'appliquent.
Et puis, Joe, l'enquête?
Ça s'embrouille, lieutenant.
Comment ça, ça s'embrouille?
Ben, c'est l'âge, lieutenant. Je crois que c'est de la presbytie.
Oh.
Je vois plus clair, là.
Passez donc nous voir chez New Look. En plus, il y a du nouveau dans notre 2 pour 1. Jusqu'au 28 juin, des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
Le printemps est là et c'est le moment de faire de la place chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Nous avons un large inventaire d'Equinox EV et de Blazer EV démonstrateurs à liquider avec un rabais allant jusqu'à 8000 $. Et ce n'est pas tout. Venez découvrir nos rabais mystères en concession. Nos véhicules électriques vous offrent une autonomie impressionnante et une recharge rapide avec la technologie de pointe. Vos trajets n'auront jamais été aussi électrisants. Marlin Chevrolet Buick GMC au 2145 rue Frank-Carrel.
Et oui, l'été est à nos portes et les super terrasses couvertes sont maintenant ouvertes dans nos fromageries Victoria. Que ce soit pour déguster une succulente poutine avec une boisson rafraîchissante ou bien savourer un délicieux dessert à notre crèmerie, la destination cet été, c'est la fromagerie Victoria.
Boulevard. Boulevard 102.1. La radio qui t'accompagne partout. Un peu comme l'intelligence artificielle, mais... sans t'espionner.
Papa, je suis obligé de mettre mon habit de main.
Fait que moins 25, moins 27, le ressenti. Assurez-vous d'être bien habillé demain matin parce qu'il va faire plus frais.
Ah, tu me niaises, tu, là. Pourquoi c'est encore bouché ici?
Oui, il y a un accident, donc un incident sur... voyons...
La route?
Sur la route, oui, là, sur Wilfrid Hamel. En fait, c'est pas vrai, c'est sur la capitale.
Boulevard 102.1. Quand t'en as besoin, sans le savoir.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Avec Benoît Terrier, ce soir, on parle des truckers, parce que Benoît, c'est le grand boss et aussi le concierge chez Truck Stop Québec. Salut Ben!
Oui, concierge, j'ai vidé cendrier tantôt.
Oui. Canada, Canada et le gros orange de l'autre côté, ça va pas si bien que ça dans les dernières semaines, les derniers mois. Qu'entends-tu de l'industrie du camionnage? Est-ce que les gens sont stressés ces temps-ci? Est-ce qu'on a l'impression que les affaires vont être moins bonnes pour le camionnage?
Ben, à chaque fois que l'administration Trump rapporte ou reporte ses supposées taxes, ce que ça fait, c'est qu'il y avait un bon côté, là, tu sais, je vais aller à l'encontre un peu de la faveur populaire, mais il y avait un bon côté quand M. Trump disait « le 2 avril, on va imposer des taxes sur tel et tel produit ». Ce que les clients américains faisaient, c'est qu'ils mandataient les compagnies ici puis ils disaient « si t'es capable de me rentrer 200 voyages, rentre les 200, on va sauver la taxe. » Fait qu'on stockait le matériel qui était supposément taxé le 2 avril. On stockait ça dans des entrepôts, donc les industries faisaient de l'argent. Les clients négociaient moins les taux, mais il fallait traverser tous ces biens-là de l'autre côté. Naturellement, ben, le 2, Trump disait « ben, finalement, on va reporter ça de 30 jours ». Fait que là, il y avait comme un ralentissement. Les entrepôts sont pleins, il faut les vider. Puis, si c'est de la nourriture, il y a des dates de péremption. Donc, il faut vérifier les dates puis sortir le matériel qui est plus sujet à être passé de date. Fait que là, ben, on avait des gros rushs. Après ça, ralentissement un petit peu. Gros rushs, ralentissement. Ça a eu des bons côtés. Pourquoi? Parce que les compagnies ont fait des sous. Mais après un rush, ben, il y a un ralentissement. Et là, ben, Trump, il a retardé encore ses fameuses taxes. Ben, là, ce que ça fait, ça stabilise un petit peu plus notre industrie. La seule chose que je demanderais à nos élus, là, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux, là, t'sais, ajoutez pas une taxe à l'inverse sur bien des produits. Moi, je pense qu'on devrait le laisser aller. On allait dire, ben maudit Trump, là, t'sais, il charge des... Mais c'est son peuple à lui qui a les effets de ces taxes-là pour l'instant. C'est pas vrai que de changer, prendre une usine de fabrication automobile de l'Ontario puis de l'emmener en Pennsylvanie, mettons, va faire en sorte qu'à l'intérieur d'un mois, tout va être changé. Ça prend des années construire ça. Fait que ça ne sera pas du jour au lendemain. Et le prix plus cher à payer, les Américains, ils vont leur mettre sur le dos de leur président. Puis à un moment donné, ben chaque chose, le karma, il faut des fois peut-être croire à ça, mais chaque chose arrivera en son temps. Puis à un moment donné, il y aura peut-être des gens qui diront ou prendront le téléphone, diront là, tu